Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque les grands escrocs de l'histoire. Après Denis Vrin-Lucas et ses vrais faux autographes, et Victor Lustig, l'arnaqueur qui tenta de vendre la tour Eiffel, retour au XXe siècle avec vous Mathieu, pour le portrait à 99% vrai de Franck Abagnale Jr., un faussaire repenti dont les arnaques furent si incroyables qu'elles inspirèrent un film à Steven Spielberg.
Oui, en 2002, Steven Spielberg a envie de raconter l'histoire comme ça d'un escroc magnifique, un escroc qui toute sa vie aurait bluffé tout le monde avec la classe et le sourire en plus. Il pense évidemment en premier lieu à Stéphane Bern. C'est logique, il a suivi toute sa carrière, de saga à 20h10 pétante, en passant par la pub où il était question de beurrer des princesses, celle qui promettait un crédit d'impôt si on construisait une véranda, et bien sûr le quiz Bern to be alive dans lequel chaque jour Stéphane soit père, soit triche, son téléphone planqué sous la table.
Ça me paraît bizarre qu'il aime le milkshake au chocolat, la CIA.
Moi, il me semble qu'il y a eu une histoire de la CIA là-dessus.
Ça, c'est de l'escroquerie.
Non, je le sais pas. Je crois me souvenir.
Oui, c'est très différent. Il croit se souvenir grâce à Google. Finalement, à l'illustre escroc franco-luxembourgeois toujours en activité aujourd'hui, Steven Spielberg a préféré un autre escroc, Franck Abagnale Jr., au grand dam de Stéphane qui aurait bien voulu son biopic par Spielberg et qui critiquera d'ailleurs ce choix d'Abagnale sous prétexte que, je cite, « les meilleurs escrocs sont ceux qui, comme moi, ne se font jamais prendre ». Oui, Stéphane, je suis au courant de votre petit trafic de boules à neige vendu sous le label Village préféré des Français. Et Dieu sait que je salue. Je salue l'ingéniosité qui consiste à planquer de la coke dans un objet aussi familier. Mais vous ne pouvez pas nier quand même que Franck Abagnale Jr. a aussi une vie extraordinaire et surtout une jeunesse hallucinante. Car je vous pose la question, Stéphane, que faisiez-vous entre 16 et 21 ans à part vous donner du plaisir dans votre studette en décalquant l'arbre généalogique de la famille grand-ducale du Luxembourg?
Pas grand-chose d'autre.
Stéphane, on visualise, c'est terrible.
C'est horrible ce que vous faites.
Franck Abagnale Jr., lui, endossait jusqu'à 8 identités différentes, encaissait plus de 2,5 millions de dollars de chèques sans provision et couchait avec un nombre invraisemblable de filles. Franck Jr. voit le jour le 27 avril 1948. Son père, Franck Senior, italo-américain, et sa mère, une Française se prénommant Paulette, se séparent quand il a 14 ans et divorcent 2 ans plus tard. Jusqu'à l'âge de 15 ans, il reste relativement tranquille, à part quelques petits délits qu'on va dire mineurs, comme vol à l'étalage. Bon, jusqu'ici, rien de dingo, on a tous été jeunes, on a tous piqué une fois dans notre vie un Malabar, ou un Thermomix, ou un T-Max. Bon, on connaît tous la petite trappe derrière qui demande qu'à s'ouvrir là à droite dans le coffre, t'as la batterie, tu coupes le fil vert sans toucher le rouge, bref. L'oisiveté est en mer de tous les vices, avec le Nutella. Franck s'ennuie trop pour rester honnête. Ironiquement, son papa chéri sera sa première victime. Comme Francky cartonne un peu avec les filles, il a beaucoup de milkshakes à payer. Il conclut donc un deal avec des employés d'une station-service dans laquelle il achète des pneus avec la carte de crédit de son père qu'il est censé utiliser uniquement pour payer l'essence. Sauf que Franck n'achète pas vraiment des pneus, il n'achète rien du tout. Il soudoie les employés de la station pour qu'ils gardent les articles et lui donnent du cash à la place. Est-ce que vous imaginez, Stéphane, si je faisais pareil avec la carte de crédit que vous m'avez prêtée l'autre jour?
Ce serait épouvantable, dégoûtant.
Oui, un jour vous demanderez quand même pourquoi vous avez 12 trains de pneus dans votre garage alors que vous n'avez qu'une seule voiture. Papa Abagnale a beau aimer le côté filou de son fiston, ça l'amuse. Là, pour le coup, il le trouve un poil trop filou et il l'envoie en maison de correction. Franck en sort à 16 ans, il emménage seul et fait assez vite le constat que les petits boulots payés 5$ de l'heure ne vont pas lui permettre d'acheter beaucoup de milkshakes. Il se lance donc dans la profession plus risquée mais aussi plus rémunératrice d'escroc. À l'âge où Stéphane se contente de dealer à la sortie du bahut comme tous les adolescents.
La photo de Nana Mouskouri qui s'est fait vacciner, ça vous intéresse?
Enfin bon, comme tous les adolescents, comme
ah
Stéphane
non.
Quoi. Franck,
ah non,
mais... lui, ah bah, vous faites ce que vous voulez, chacun son business. Franck, lui, passe la seconde. Déjà, aidé par ses cheveux prématurément gris, il commence par se vieillir de 10 ans en trafiquant sa carte d'identité, ce qui va lui permettre de se lancer dans le business lucratif de l'encaissement de chèques falsifiés. Alors comment ça se passe? Eh bien, vous pouvez prendre des notes, les enfants. Comme dirait Jamy, c'est pas sorcier. Il vous suffit d'ouvrir plein de comptes dans plein de banques différentes, dans tout plein d'états différents. Pratique aux États-Unis, il y en a 50. Dès que tu as encaissé trop de chèques dans un état, hop, tu files dans un autre. À l'époque, les bases de données bancaires n'étant pas encore fédérales, mais locales, tu pouvais t'en tirer comme ça pendant des années. Mais Jamy, c'est pas un peu illégal ton truc? Bien sûr Fred, mais tu préfères être payé au lance-pierre sur le service public et rouler dans ce vieux camion pourri depuis 20 ans ou kiffer la life en Corvette V12 avec du champagne et des putes? Ah oui, je préfère le champagne et les putes, Jamy. La digression est un peu anachronique, mais c'est peu ou prou ce qui se passe dans la tête de Franck Abagnale Jr. qui dès lors n'aura de cesse de perfectionner sa fraude. Déjà en renforçant sa crédibilité au moment de l'encaissement des chèques. Et il fait quand même très jeune, il redoute un peu les questions. Comment faire pour gagner en assurance? Un jour, dans un hôtel, il remarque un groupe de pilotes de ligne en train de se la péter grave. Il est impressionné par leur aura. Le respect qu'ils inspirent avec leurs uniformes et les hôtesses qui minaudent à leur côté. Il ruse une fois de plus et se procure Alors non Stéphane, pas une hôtesse, du moins pas tout de suite, mais un uniforme. Alors, pour ce faire, il a l'idée toute simple d'appeler la Pan Am, donc la compagnie aérienne, phare de l'époque, pour demander un nouvel uniforme de pilote suite à la perte de son uniforme, comme s'il était pilote. Et ben ça marche. Ah, époque bénie des années 60 où une compagnie aérienne pouvait te filer un uniforme de pilote sans que tu produises la moindre pièce d'identité, alors qu'aujourd'hui pour entrer dans une épicerie, il te faut un visa, un scan de la rétine et bientôt un passeport vaccinal. En plus de l'uniforme, Franck réussit à se bidouiller un badge de la Pan Am et récupère même une vieille licence expirée de copilote certifiée par la Federal Aviation Administration sous le nom de Frank Williams. Il tient un journal dans lequel est détaillée toute la terminologie de l'aviation afin de parfaire son usurpation. L'illusion est parfaite.
PNC aux portes, armement les toboggans.
Il ne pilote évidemment jamais, hein, dis non, sinon l'histoire se serait arrêtée un peu plus rapidement, mais il bénéficie d'un processus appelé deadheading qui permet à un employé d'une entreprise de voyager gratuitement sur d'autres vols sur simple présentation d'une pièce d'identité. Frank découvre alors ce que les hédonistes appellent « the Sacha Distel life ». Il effectue plus de 250 vols en tant que faux pilote, visite 26 pays gratos et totalise plus d'un million de miles. Pour se loger et se restaurer, pas de problème, les hôtels et les repas sont offerts par la compagnie. Il a entre 16 et 18 ans. Il saute de ville en ville, d'état en état, d'hôtesse en hôtesse, comme un cabri sous Viagra. Les bonnes semaines, il peut empocher jusqu'à 40 000 $ en 3 jours. Surtout, il sait quitter la table quand la chance tourne. Lors d'une escale, il manque d'être grillé, il arrête tout pour devenir médecin. Pendant 11 mois, en Géorgie, il est le pédiatre Frank Williams. Il s'en sort en laissant les internes faire le boulot médical. Lui, se concentre sur l'administratif. Et les rares fois où il se trouve confronté à un patient, bah, il bluffe.
Bon, docteur, soyez gentil, dites-moi la vérité.
Bon, asseyez-vous. Ce que je vais vous dire doit rester entre nous.
Très bien.
Voilà, je ne suis pas docteur. Je viens de la planète Vulvor.
Docteur, ça suffit. Soit vous me dites la vérité, soit je vous fous mon poing dans la gueule.
Impossible. Je suis un robot. Titane, aluminium et eau de Cologne. Chaque centimètre carré de ma peau peut supporter jusqu'à 2 tonnes de poussée. Et j'ai les couilles en Kevlar, alors tu peux toujours y aller, mon petit bonhomme en mousse.
Évidemment, un jour où un patient manque de clemcé, là quand même, comme il a un peu d'humanité, il décide que, comme il n'est pas médecin, il va quand même arrêter ce faux métier. Il cherche un autre faux métier, et à 19 ans, il prétend être diplômé de Harvard. Il passe l'examen du barreau en Louisiane pour devenir avocat, il bûche pendant 8 semaines et il l'obtient après le troisième essai. Ça, c'est le moment pivot dans le film de Spielberg aussi, où on comprend que le mec, il est en fait brillant, il aurait pu faire complètement autre chose. Il n'a pas le temps de plaider parce qu'un collègue un peu suspicieux lui pose beaucoup trop de questions sur Harvard. Il démissionne, il se fait ensuite engager à Europe 1 où il anime l'émission 9h à Bibi aux côtés de Maurice Birot. C'est Julie qui, ayant eu une aventure avec lui lors d'un séjour à Cancun, le reconnaît et prévient les autorités.
C'est une petite tarlouse.
Ou peut-être, comme ma chronique s'appelle à 99% vrai, est-ce plutôt une hôtesse d'Air France qui le reconnaît à Montpellier, ayant vu son visage sur un poster siglé « Wanted ». Il est arrêté, il fait un an de prison en France, avant d'être rapatrié aux États-Unis où il réussit à échapper à la sortie de l'avion au FBI, qui est ridiculisé une fois de plus. Il s'enfuit en Géorgie, se refait arrêter par le FBI dans la banlieue d'Atlanta, s'échappe à nouveau. Les gars du FBI commencent à l'avoir un peu mauvaise, mais un mois plus tard, c'est la bonne, on le chope à New York, il est condamné à 12 ans de prison. Il en purge 3 avant d'être remis en liberté conditionnelle. La condition, eh bien, aider les autorités à combattre la fraude. Et c'est peut-être là que son œuvre escroc touche au génie. Avoir réussi non seulement à éviter la tôle, mais être parvenu à convertir son talent en business légal, il crée Abagnale & Associates, une compagnie qui conseille et aide les entreprises face à la fraude. Près de 14 000 entreprises dans le monde aujourd'hui font confiance à son expertise, et on les comprend un peu. Franck est désormais millionnaire, connu, reconnu, respecté, il travaille aux côtés du FBI depuis plus de 40 ans, et il enseigne même dans leur académie. Bien joué Francky. Mais pas aussi bien joué que Stéphane, qui lui, c'est vrai, ne s'est jamais fait choper et continue tranquillement derrière sa fabuleuse couverture d'animateur préféré des Français, son lucratif trafic d'héroïne dissimulé dans des langues de chat. Il est sur écoute, mais pour l'instant, la brigade des SUP n'a pas réussi à décoder ses messages.
Moi, j'apporterai des petits biscuits, alors.
Oh, mais qu'il est malin, ce Stéphane, qu'il est malin.
Merci beaucoup, Mathieu. Bon, c'était à 96% vrai.
Non, 99, okay. Non,
à part tout ce qui me concerne.
Ah oui, non, ça, je ne sais pas. C'est pas ce que vous faites, mais vous l'avez un peu à vous à demi-mot tout à l'heure quand même.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.